France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui dans les coulisses du 6 juin 1944, De Gaulle, Roosevelt et le débarquement.
This is London. Les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ans d'histoire. Le 2 juin 1944, à Alger, le général de Gaulle recevait de Churchill un message qui lui demandait de venir à Londres le plus vite possible et dans le plus grand secret. « Je vous donne personnellement l'assurance que c'est dans l'intérêt de la France », ajoutait le Premier ministre britannique. Deux jours plus tard, le 4 juin, de Gaulle était à Londres, où Churchill lui annonçait l'imminence d'un débarquement en France. Furieux de n'avoir pas été prévenu qu'à la dernière minute, le chef de la France libre l'était encore plus en apprenant que dans les territoires libérés, les Français devraient obéir au commandant en chef de l'opération, le général Eisenhower. C'était le début d'une épreuve de force peu connue et qui, dans les coulisses du débarquement, allait opposer Churchill et Roosevelt au général de Gaulle. Elle commençait au moment où, le 6 juin 1944, le chef de la France libre annonçait à la BBC le début en Normandie d'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps.
It's now becoming quite clear in daylight as 6 a.m. approaches on June 6, 1944.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si lourd de notre souffle, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.
Olivier Vivorca, bonjour.
Bonjour.
Alors, on croit que tout a été dit ou écrit sur le 6 juin 1944, mais en lisant votre histoire du débarquement en Normandie, on y découvre beaucoup de choses très peu connues, non seulement sur l'aspect militaire de l'opération, mais aussi sur ses enjeux politiques et particulièrement sur un conflit tout à fait étonnant auquel vous avez consacré un chapitre, celui qui a opposé la France libre du général de Gaulle à ses alliés américains et anglais à propos du débarquement, un conflit d'ailleurs qui apparaît dans le discours de De Gaulle que l'on vient d'entendre, parce que quand le 6 juin 1944 à la BBC, il dit « c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France », il exprime plus, au fond, un souhait que la réalité. La France a très peu participé au débarquement du 6 juin, et lui-même, d'ailleurs, n'en a été prévenu que très tard.
Oui, c'est ce que remarque d'ailleurs Churchill. Les Français engagent très peu d'effectifs terrestres, puisque, au fond, la seule participation française, ce sont les 177 hommes du commando Kieffer. Donc, effectivement.
Et qui sont sous commandement anglais, en plus.
Et qui sont sous commandement britannique. Donc, effectivement, lorsque l'on dit que c'est la bataille de France, c'est la bataille de la France, c'est effectivement une bataille qui concerne la France, qui va se dérouler en France, mais où les Français en tant que tels participent assez peu.
Alors, ils vont participer quand même sous une forme très importante, mais que sous-estiment les alliés, vous le rappelez, Olivier Vivorca, c'est la résistance à l'arrière des positions allemandes. Ils vont jouer un rôle considérable que Eisenhower reconnaîtra d'ailleurs.
Oui, alors, si vous voulez, les alliés ont fait des plans. Et dans ces plans, ils n'ont absolument pas tenu compte de la résistance. Pourquoi ? Je pense que c'est une raison qui est tout à fait compréhensible. Ils ne pouvaient pas faire reposer le succès de l'opération sur des éléments qu'ils ne contrôlaient pas ou qui auraient pu être, bien entendu, victimes de la répression allemande. Ils ont donc considéré, et l'expression est du général britannique Morgan, la résistance comme un bonus. Ce qui veut dire qu'effectivement, cette résistance va participer avant le débarquement par des sabotages, mais également par des missions de reconnaissance, en transmettant des documents à Londres, qu'au moment du débarquement, cette résistance va entrer en action en sabotant des voies ferrées, en sabotant des lignes de communication, en sabotant des lignes téléphoniques, mais que, au fond, la véritable levée en masse ou la véritable insurrection nationale ne se produira pas.
D'autre part, la bataille de France, là encore c'est un peu une illusion, vous le rappelez, l'objectif n'est pas de libérer la France, ce qui va se faire bien sûr après le débarquement, il est stratégique, il porte sur l'ensemble de l'Europe occidentale, il s'agit de passer par la France pour aller vers Berlin.
Vous avez entièrement raison, ce qui justifie au fond le débarquement, c'est d'abattre le Reich de la manière la plus efficace possible. De ce point de vue, il faut bien rappeler que les Britanniques et les Américains ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les Britanniques auraient, et de loin, préféré que le débarquement intervienne en Méditerranée, en d'autres termes, que le paquet soit mis sur l'Italie d'abord, éventuellement sur les Balkans ensuite, pour tout un ensemble de raisons. Et les Américains qui, pour d'autres raisons, qui sont d'abord militaires. Il faut frapper l'Allemagne à l'endroit où elle est le plus fort, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Europe. Pour des considérations donc stratégiques, mais également géopolitiques, c'est-à-dire atteindre la Ruhr le plus vite possible, les Américains choisissent donc le nord-ouest de la France. Mais l'idée que les Américains vont venir libérer une France martyrisée sous le joug nazi, ce n'est pas du tout l'idée qui prévaut chez les dirigeants alliés.
Alors il y a une chose, vous parlez de dirigeants alliés, il y en a un, ce qui est Roosevelt, qui se méfie du général de Gaulle. Tout le conflit qu'il va y avoir entre les deux hommes, et notamment à ce moment-là, il tient à cela. Roosevelt se méfie de Gaulle, il doute de sa légitimité et il ne reconnaît même pas le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Il y a eu, avant le débarquement, ce qu'on appelle le Comité français de libération nationale qui était installé à Alger, que ne reconnaissent pas les Américains, et surtout un gouvernement provisoire que crée de Gaulle le 3 juin, trois jours avant le débarquement, et que les Américains ne reconnaissent pas non plus, Olivier Vidorca.
Non, alors, bien entendu, les Américains, suivis par les Britanniques, ne reconnaissent pas le pouvoir, au fond, du général de Gaulle. Alors pourquoi ? Vous avez incontestablement des problèmes de personne. Roosevelt n'est pas du tout sensible à la magie du général de Gaulle.
C'est un euphémisme.
Voilà. Vous avez ensuite des questions, je dirais, politiques au sens très noble du terme, qui sont que de Gaulle n'est pas élu, de Gaulle n'est pas légitime. Donc, tout un ensemble d'éléments qui font que de Gaulle n'est pas un bon partenaire pour les Américains. Mais je crois qu'il y a aussi un élément qui n'est pas suffisamment mis en avant. C'est que les Américains voient très bien que de Gaulle sera un partenaire mal commode. Et dans une certaine mesure, si on peut être politiquement incorrect, Roosevelt a raison. De Gaulle est un partenaire encombrant. Il est beaucoup plus facile de traiter avec des gens comme Darlan ou avec des généraux comme Giraud, qui sont dociles, qui laissent le champ libre aux Amériques, etc., etc., que de traiter avec un partenaire aussi rugueux.
Alors, si bien qu'il n'est pas question qu'après le débarquement, les Français passent sous l'autorité du général de Gaulle, ils seront placés sous celle du commandant suprême en Normandie, le général Eisenhower, qui le 6 juin, quelques minutes avant le général de Gaulle, s'adressait aux Français au moment où commençait le débarquement.
Peuple de l'Europe occidentale, un débarquement a eu lieu ce matin sur les côtes de France par les troupes de la force expéditionnaire alliée. En tant que commandant suprême des forces alliées, j'ai le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la guerre. Une obéissance immédiate aux ordres que je donnerai est essentielle. L'administration civile de la France doit être faite par les Français. Quand la France sera libérée de ses oppresseurs, vous-même choisirez vos représentants et le gouvernement que vous souhaitez. Tous ensemble, nous vaincrons. On nous annonce à l'instant que le général de Gaulle est arrivé en Angleterre. Il s'adressera plus tard aux Français à la radio.
We've got a heck of a job to do, but you can bet that we'll see it through. We did it before, and we can do it again, and we will do it again. We're one for all and we're all for one.
We did it before and we can do it again. Nous l'avons fait, hein, je suppose que ça évoquait 14-18, et nous le ferons à nouveau. C'est une chanson de 41, mais qu'on chantait probablement Olivier Vivorca au moment du débarquement en Normandie. Et débarquement dont le commandant en chef, on l'a entendu, demander aux Français libérés d'obéir à ses ordres, ce que n'acceptait pas De Gaulle. Au fond, tout l'enjeu du conflit entre De Gaulle et les Américains, c'est qui va gouverner la France une fois qu'elle sera progressivement libérée.
Absolument. Alors, pour les Américains, les choses sont claires. Le pouvoir appartient au commandant en chef.
Eisenhower, en
l'occurrence. Pour le général De Gaulle, les choses sont encore plus claires. Le pouvoir lui appartient. Il n'a pas à marchander sa reconnaissance, il n'a pas à marchander sa légitimité. Cela ne veut pas dire, comme on l'a dit trop souvent, qu'il y ait eu un projet d'Amgott.
Alors, il faut préciser ce que c'est. Amgott, ça veut dire Allied Military Government on Occupied Territory, c'est-à-dire gouvernement militaire allié en territoire occupé, ce qui avait été d'ailleurs mis en place en Italie, considéré comme occupé, parce que considéré comme vaincu, comme allié de Hitler. Voilà. Pour la France, on en a parlé, vous dites que non.
Non, alors, effectivement, il faut bien d'abord préciser qu'il n'est en aucun cas question d'Amgott, puisque la France n'est pas un pays occupé. C'est un Liberated Territory. Donc déjà, la France ne sera pas placée, et c'est heureux, sur le même plan que l'Italie ou que l'Allemagne, elle sera placée sur le même plan que la Norvège, les Pays-Bas ou la Belgique. Ce que réclame au fond Roosevelt, ce n'est pas l'institution d'un pouvoir militaire où les Américains placeraient à tous les centres névralgiques des militaires américains. Ce qu'il réclame, c'est que le commandant en chef, le général Eisenhower, soit en droit de choisir librement ses hommes. Ce que De Gaulle, bien entendu, refuse. Il veut avoir la mainmise à la fois sur l'administration et sur les postes politiques, en d'autres termes, désigner les maires et les préfets qui lui conviennent. L'agile au conflit.
On aurait pu imaginer, et c'est pour ça que De Gaulle se méfie, qu'on maintienne en place l'administration de Vichy.
Bien entendu.
Et c'est ça que De Gaulle ne voulait pas.
Et De Gaulle, bien
entendu. C'est pas pour placer ses hommes, hein, sa clientèle.
Non, je ne parle pas parler de clientèle politique. Je veux dire de placer ses hommes, c'est-à-dire des républicains favorables à la restauration de la légalité républicaine. Mmh. Bien entendu.
Il y a une chose qui le met en colère, dites-vous, Olivier Vivorca, c'est aussi la possibilité, ça c'était effectif, de faire circuler en France une monnaie imprimée aux États-Unis, hein, ce que De Gaulle appelle une fausse monnaie. C'est vrai qu'à ce moment-là, De Gaulle perdrait un pouvoir qui appartient à un gouvernement légitime.
Bien sûr, il y a une double question sur cette histoire de monnaie. Il y a un problème de souveraineté, puisque le fait de battre monnaie est une prérogative régalienne, mais il y a également un problème financier, un problème monétaire, à savoir qui, in fine, garantit la monnaie. Ce qui nous vaut des échanges très savoureux entre Roosevelt et Churchill. Au départ, Roosevelt dit « aucun problème, nous allons tout simplement diffuser de l'argent que nous aurons imprimé et le problème sera réglé. » Et Churchill dresse l'oreille en disant « Mais à la fin, qui va le garantir ? Qui va garantir si les Français n'acceptent pas cette monnaie ? Car le fait de faire circuler de la monnaie poserait bien entendu un énorme problème. Le problème serait le suivant. Cela veut dire que les Américains et les Britanniques, au total, paieraient l'intégralité de leurs dépenses, ce qui n'était pas logiquement prévu, puisque la France devait payer une partie du fardeau. Donc De Gaulle engage la bataille sur cette monnaie en disant « Vous voulez faire circuler de la fausse monnaie ? Je ne la garantis pas », ce qui veut dire que vous allez acquitter le total des opérations, des frais de casernement de l'armée américaine et britannique.
Et les Américains, finalement, vont y renoncer.
Eh bien, ils y renoncent, oui.
Pour faire circuler cette monnaie dans une région qui est ravagée par les combats, on l'oublie souvent, les combats qui ont suivi ou précédé, d'ailleurs, de quelques heures, le débarquement, dans un pays, aussi bien que d'ailleurs que les alliés, craignent d'être mal accueillis, justement, par une population qui souffre notamment des bombardements.
Allô, BBC. Ici Pierre Lefebvre, qui vous parle de Normandie. Déchirée par la guerre, mais partiellement libérée. Libéré de la présence du Boche. Mais c'est aussi ce coin de Normandie, un champ de bataille. Sans cesse, des avions ronflent au-dessus de nos têtes. Les bombardiers qui viennent d'outre-Manche et qui passent au fond du ciel parmi les flocons de la DCA. Le canon qui tonne à longueur de journée. Oui, la guerre est là, toute proche. Et c'est pourquoi, malgré le profond bonheur de la libération, les gens sont graves, souriants, mais grave.
Ici Marcel Ouimet, qui vous parle de France. Les premiers Français que j'ai vus en France, ce sont ceux de Bernières. Des Normands pour la plupart, quelques Parisiens aussi qui étaient venus à la plage pour une vacance. Et pour plusieurs, le débarquement signifiait la perte complète de leurs biens matériels. Mais tout de même, ils se montraient heureux. Ils trouvaient la force de sourire et de crier « Vive l'Angleterre, vive le Canada, vive l'Amérique !» Certains de nos soldats répondant « Vive la France !» Mais que pensez-vous du général de Gaulle, ai-je demandé subitement. Mon interlocuteur normand, un homme de 60 ans, me regardant en souriant. Le général de Gaulle, mais monsieur, vous parlez un convaincu. Je l'embrasserai à sa première visite.
Et c'était deux correspondants de guerre en Normandie, en juin 44, au tout début, juste après le débarquement. Et on sent bien que, effectivement, les Alliés craignaient d'être mal accueillis par la population. Non pas parce qu'elle allait être libérée, non pas parce qu'elle aimait les Allemands, mais parce qu'elle souffrait. Et ça, vous le rappelez dans votre livre, c'est une des choses très importantes qui est dans votre livre. Elle a énormément souffert de ce débarquement. On pouvait craindre, au fond, qu'elle en veuille à ses libérateurs.
Oui, vous avez entièrement raison. Cette Normandie avait vécu, je ne dirais pas paisiblement, car une occupation est toujours terrible et les Normands ont acquitté un lourd tribut à l'occupation, mais dans une large mesure, on peut dire que cette occupation a peut-être été moins rudement ressentie que dans d'autres régions de France, je pense bien entendu au nord. D'autant que la Normandie était une région agricole où le problème du ravitaillement se posait avec moins d'acuité que dans d'autres régions françaises. Ceci dit, à l'aube du 6 juin, c'est véritablement une tornade de feu qui s'abat sur la Normandie. Ce sont tout d'abord les bombardements aériens. Mais ces bombardements aériens sont doublés, ce que l'on oublie parfois, de bombardements navals, car la marine épaule les opérations terrestres. Enfin, insistons bien sur ce point, la Normandie devient un champ de bataille, et un champ de bataille particulièrement terrible. Donc au total, vous avez à peu près 15 000 morts en Basse-Normandie durant la campagne de Normandie, ce qui est bien entendu un chiffre très élevé.
Avec des villes ravagées, Caen, Lisieux, Saint-Lô, c'était terrible.
Oui. La liste est innombrable. Et donc ces Normands, bien entendu, ont une attitude ambivalente par rapport au débarquement et par rapport à leurs libérateurs. D'une part, ils remercient les libérateurs d'être venus, de les avoir libérés de cette occupation allemande si pesante, et de l'autre, ils ne peuvent que constater que cette libération a apporté du sang, de la sueur et des larmes.
Et puis on a entendu certains d'entre eux attendre le général de Gaulle, auquel Churchill accorde l'autorisation, parce que de Gaulle est à Londres, et il n'arrive dans la première ville libérée de Normandie à Bayeux que le 14 juin, et encore malgré les réticences de Churchill. Vous citez une lettre de Churchill au général Montgomery, qu'il faut absolument lire. « Je dois, dit Churchill à Montgomery, je dois vous infliger une visite du général de Gaulle demain. Je ne pense pas que vous devriez l'accueillir sur la plage. Il serait bien suffisant qu'il arrive à votre quartier général. Il faudrait éviter qu'il rassemble de larges foules à Bayeux et que se produise un événement ressemblant peu ou prou à une manifestation politique. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Churchill n'avait pas envie que de Gaulle aille en France.
Non, c'est véritablement un service minimum que Churchill recommande à Montgomery.
Alors il y va, il est plutôt bien accueilli à Bayeux, oui, et dans les territoires qu'il passe, évidemment, et où il découvre un pays qu'il a quitté 4 ans plus tôt, et surtout il installe les premiers préfets. C'est aussi un acte politique de Gaulle. Il veut installer, comme vous le disiez tout à l'heure, sa propre administration. Les premiers préfets sont désignés par de Gaulle à Bayeux et en Normandie.
Oui, vous avez entièrement raison. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que jusqu'au débarquement, de Gaulle a essayé d'obtenir une reconnaissance par le haut. Il a espéré que Churchill, Roosevelt, peut-être Staline, reconnaîtraient son gouvernement provisoire. Et malgré toutes les manœuvres diplomatiques, cette piste n'a pas abouti. Donc de Gaulle va procéder après le 6 juin à ce que les officiers des affaires civiles britanniques baptisent du nom de coup d'État. Il nomme à la base son administration. Et cette administration, que fait-elle ? Elle gère plutôt bien, elle coopère plutôt bien avec les troupes anglo-américaines.
Elle chasse l'administration de Vichy.
Elle est acceptée par la population. Elle règle les problèmes de ravitaillement. En d'autres termes, dans le bas de l'échelle, au niveau des officiers, des colonels, eh bien, tout se passe bien. Et ces officiers envoient des messages à leur commandement en disant eh bien, il faut quand même reconnaître la réalité du pouvoir gaulliste. Il ne faut absolument pas mettre des embûches, des obstacles à cette reconnaissance. Cette administration fonctionne bien. Il y a donc une reconnaissance par le bas qui va s'opérer beaucoup plus que par le haut.
Oui, parce qu'on ne reconnaît toujours pas, Roosevelt ne reconnaît toujours pas le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Et c'est une des raisons du voyage que le chef de la France,